Premier livre des rois, au chapitre 21, vous avez cette histoire à partir du verset premier. Nous en lisons les quelques versets. Avant toute chose, vous avez les salutations des quelques frères et sœurs de l'Assemblée de Montpellier, où nous servons le Seigneur, et puis de la famille. Heureux de saluer les membres de notre famille ici, que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Voici ce que nous lisons. Après ces choses, voici ce qui arriva. Naboth de Jizréel avait une vigne à Jizréel, à côté du palais d'Akab, roi de Samarie. Et Akab parla ainsi à Naboth : cède-moi ta vigne pour que j'en fasse un jardin potager, car elle est tout près de ma maison. Je te donnerai à la place une vigne meilleure, ou si cela te convient, je te paierai la valeur en argent. Mais Naboth répondit à Akab, que l'Éternel me garde de te donner l'héritage de mes pères. Akab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Jézabel, sa femme, vint auprès de lui et lui dit, « Pourquoi es-tu l'esprit triste et ne manges-tu point ? » Il lui répondit, « J'ai parlé à Naboth de Jizréel et je lui ai dit, « Cède-moi ta vigne pour de l'argent, ou si tu veux, je te donnerai une autre vigne à la place. » Mais il m'a dit, « Je ne te donnerai pas ma vigne. » Alors Jézabel, sa femme, lui dit, « Est-ce bien toi maintenant qui exerces la souveraineté sur Israël ? « Lève-toi, prends de la nourriture, et que ton cœur se réjouisse, moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Jizréel. » Elle écriva au nom d'Akab des lettres qu'elle scella du sceau d'Akab et qu'elle envoya aux anciens et aux magistrats qui habitaient avec Naboth dans la ville. Voici ce qu'elle écrivait ou écrivit dans ses lettres. Publiez un jeûne, placez Naboth à la tête du peuple et mettez en face de lui deux méchants hommes qui déposeront ainsi contre lui. Tu as maudit Dieu et le roi, puis mettez-le dehors, lapidez-le et qu'il meure. Les gens de la ville de Naboth, les anciens et les magistrats qui habitaient dans la ville agirent comme Jézabel le leur avait fait dire, d'après ce qui était écrit dans les lettres qu'elle leur avait envoyées. Ils publièrent un jeûne et ils placèrent Naboth à la tête du peuple. Les deux méchants hommes vinrent se mettre en face de lui et ces méchants hommes déposèrent ainsi devant le peuple contre Naboth. Naboth a maudit Dieu et le roi. Puis ils le menèrent hors de la ville, ils le lapidèrent et il mourut. Et ils envoyèrent dire à Jézabel, Naboth a été lapidé et il est mort. Lorsque Jézabel apprit que Naboth avait été lapidé et qu'il était mort, elle dit à Akab, « Lève-toi, prends possession de la vigne de Naboth de Jizréel, qui a refusé de te la céder pour de l'argent, car Naboth n'est plus en vie, il est mort. » Akab, entendant que Naboth était mort, se leva pour descendre à la vigne de Naboth de Jizréel, afin d'en prendre possession. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée à Élie, le Tishbite, en ces mots. Lève-toi, descends au-devant d'Akab, roi d'Israël à Samarie. Le voilà dans la vigne de Naboth, où il est descendu pour en prendre possession. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. N'es-tu pas un assassin et un voleur ? Et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel. Au lieu même où les chiens ont léché le sang de Naboth, les chiens lécheront aussi ton propre sang. Je ne vais pas lire la suite. Il y a des paroles très dures contre Jézabel. Finalement, Akab va se repentir. Mais les jugements qui ont été ainsi prononcés par l'Éternel se sont parfaitement accomplis, parce que celui qui a le dernier mot en toutes circonstances, c'est notre Seigneur. Je sais que mon Rédempteur est vivant, et c'est lui qui se lèvera le dernier sur la terre. On pourrait aussi dire, en extrapolant, je sais que c'est lui qui aura toujours le dernier mot et que tout passera, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Certes, dans ce que nous avons lu, il y a un aspect négatif, puisqu'on aurait aimé que la fin de Naboth soit différente, mais n'est-elle pas aussi en relation avec une autre histoire que nous connaissons bien et qui est au centre de notre foi et qui concerne notre Seigneur Jésus? Il est allé jusqu'à la mort, mais cette mort de Jésus n'est pas la défaite de Jésus, mais la victoire de notre Seigneur, car c'est par ce moyen-là qu'il a écrasé la tête du serpent ancien qui est le diable. Nous cherchons non pas à sauver notre vie, nous cherchons à glorifier notre Seigneur, et si nous devons perdre notre vie, l'important c'est que le Seigneur soit élevé, car notre vie ne nous appartient plus. Je pense que nous devons le réaliser. Quelquefois, nous discutons comme si elle était à nous et qu'il fallait tout faire pour satisfaire nos désirs. Ce que nous devons rechercher avant toute chose, c'est à plaire à notre Seigneur. Alléluia. Alors, d'une certaine manière et de manière méthodique, j'en profite, pas oublier ceux qui sont avec nous sur la vidéo, que Dieu vous bénisse aussi abondamment. Je vais essayer d'une manière méthodique de vous parler de ce texte avec simplicité, vous encourageant à vous attacher à la parole du Seigneur. Il ne s'agit pas ici de chercher à faire des comparaisons qui vont au-delà de ce qui nous concerne. La parole de Dieu est prêchée pour nous qui sommes présents. Elle est d'abord prêchée pour celui qui la prêche, et je veux la serrer dans mon cœur comme une richesse de la part de mon Seigneur, une source d'encouragement. Déjà, le personnage de Naboth est intéressant, car Naboth, c'est un nom qui a une signification. Et ce n'est pas un hasard dans la Bible lorsque nous avons des noms avec une signification. Naboth, c'est un nom qui veut dire fruit, et qui veut dire produit. Donc, le nom même de ce personnage a une portée symbolique, parce que nous, chrétiens, nous sommes les fruits. Nous sommes les produits de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix du calvaire. Nous nous souvenons des paroles de Jésus qui a dit « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Et nous bénissons le Seigneur. Un grain de blé peut donner naissance à une multitude d'autres grains de blé de la même nature. C'est là le miracle de la grâce de Dieu. Je n'arrive pas à réaliser pleinement cette grâce que Dieu nous a accordée. Nous savons que Dieu est un, et que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu est un en trois personnes, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, mais que Jésus est le Fils unique du Père. Mais il est dit aussi, il est le premier-né entre plusieurs frères. Et il y a une intention, un désir divin, glorieux, c'est de la part de notre Seigneur de nous amener à recevoir cette même nature qui est la sienne pour faire de nous des enfants de Dieu et des héritiers du ciel. Nous sommes héritiers du Père, co-héritiers avec Christ. Comment mesurer cette richesse? Nous n'avions rien, mais nous avons tout pleinement en lui aujourd'hui. Alors ce matin, simplement en vous parlant et avec vous, je le pense, d'un même cœur, nous ne pouvons que bénir le Seigneur, car nous avons été enrichis de pauvres que nous étions, parce que celui qui est riche s'est fait pauvre pour nous. Et il nous a donné un héritage extraordinaire. Nous sommes le fruit, le produit de l'œuvre de Christ accomplie à la croix du calvaire. Le résultat n'est pas le résultat de nos efforts, n'est pas une question d'hérédité ou de préférence, mais c'est vraiment la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Et aujourd'hui, je bénis le Seigneur pour cette grâce qu'il nous a accordée, qu'il m'a accordée. Je n'ai rien mérité et pourtant, j'ai tout reçu. Alors, à partir du moment où je le réalise, je devrais cesser de me plaindre et de me lamenter, de regarder à moi-même au point de considérer tant de choses qu'il me manque encore. Je veux apprécier tout ce que Dieu m'a déjà donné, et dans ce qu'il m'a donné, il y a tout ce qui est nécessaire pour que ma vie se développe de la bonne manière. Car si Naboth est fruit et produit, et que nous sommes, nous chrétiens, les fruits et les produits de l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ accomplie à la croix, nous sommes aussi appelés à porter du fruit, à produire quelque chose. Là, je ne vous apprendrai rien, vous le savez, mais tout en le sachant, c'est bien, mais en le lisant, c'est encore mieux. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Quand on regarde ce fruit de l'esprit, on a l'impression que se dévoile à nous le visage même de notre Seigneur. Finalement, nous sommes appelés à produire ce fruit de l'esprit afin de glorifier notre Seigneur. Naboth avait une vigne, et cette vigne a aussi une portée symbolique intéressante. Nous sommes appelés à produire du fruit, comme la vigne porte du fruit. Malheureusement, beaucoup dans leur vie chrétienne ne portent pas de fruit. Je dirais, malheureusement, beaucoup portent du fruit dont ils rougissent, enfin, dont ils devraient rougir. Et il y a, sans considérer les autres, peut-être une introspection à faire, et de se poser la question, est-ce que nous faisons bien ce que le Seigneur nous demande de faire? Et sommes-nous vraiment de ceux que, par amour pour le Seigneur, ont un désir de lui être agréable et de porter du fruit? Cette vigne de Naboth. La vigne est le symbole de la vie spirituelle. Et cette vie spirituelle, elle doit être prospère. Chacun à l'égard de sa vie spirituelle, de ce que nous avons reçu de la part de notre Seigneur, avons des responsabilités. Nous ne pouvons pas rejeter la responsabilité sur les autres. Nous sommes chacun responsables de ce que nous avons reçu de la part de notre Seigneur. Nous ne pouvons pas parler de cette vie spirituelle qui prospère sans faire le parallèle entre cette vigne dont nous parlons ici et l'évangile de Jean, chapitre 15. Vous connaissez bien ce texte où Jésus se présente et dit « Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments ». C'est extraordinaire de voir ce qui se passe à ce moment-là dans ce texte de l'Écriture pour nous amener à comprendre que le fait d'être antégreffé dans le cep produit un miracle extraordinaire. Je me souviens, lorsque j'étais enfant et que j'allais passer quelque temps chez mes grands-parents dans le sud de l'Italie, en Sicile, j'étais souvent avec mon grand-père, qui était souvent, lui, appelé à greffer des plantes, et particulièrement la vigne. Et je me souviens d'une expérience toute particulière où il m'avait présenter cette vigne avec ses sarments et il m'avait expliqué comment il procédait. Il avait son couteau, son matériel. D'ailleurs, son couteau, il l'avait toujours avec lui. Il faisait tout avec son couteau. Hein. Une fois, on l'a même amené à la pizzeria pour manger. Il n'avait pas tellement l'habitude. Eh bien, il a sorti son couteau. Ce n'était pas le couteau qu'on lui présentait, mais ce couteau. Hein. Eh bien, il a fait quelque chose de particulier. Il a taillé le cep en forme de croix. Et puis, il a biseauté le sarment. Il a mis ce sarment dans cette fente qu'il avait découpé, et puis il l'a attaché solidement, il a mis tout ce qu'il fallait, puis il a dit, c'est bon, tu verras l'année prochaine. Effectivement, l'année d'après, je suis retourné, et j'ai trouvé là des raisins sur ce cep qu'il avait greffé, j'étais émerveillé, et en même temps, ça m'a donné une leçon extraordinaire de ce que le Seigneur est venu accomplir dans chacune de nos vies. Il n'a pas voulu que les sarments restent seuls, parce que en restant seuls, nous ne pouvons rien produire, nous ne produisons pas de sève, il n'y a pas la vie en nous. Mais si nous sommes au moment de Dieu, au bon moment, greffés, hanté dans le cep, alors tout est possible. Et nous découvrons là la portée de cette expérience chrétienne. Le vigneron, notre Père céleste, a découpé le cep. C'est vrai que la croix a été la blessure faite au cep. Une blessure a été faite aussi sur nous. Lorsque le message de l'Évangile nous a été annoncé, nous avons réaliser notre péché et le coup de couteau a été donné. Nous avons abandonné là notre péché, demandant pardon à Dieu. Et nous avons reçu cette grâce d'être rapprochés du cep. Et cœur contre cœur, nous avons été attachés solidement par l'amour de Dieu. Et la sève, cette vie qui est dans le cep, a commencé à passer en nous, à couler en nous. Et nous nous souvenons, nous ne pouvons pas oublier ce temps où, rencontrant le Seigneur, nous avons expérimenté quelque chose qu'il est difficile d'expliquer. C'est indéfinissable lorsque la vie du Seigneur passe en nous et que nous commençons à être transformés, à être de nouvelles créations. Nous réalisons les choses d'une autre manière. Quel bonheur ! Et mes frères et sœurs, le temps a passé, mais cette vie doit toujours couler en nous, car nous devons rester attachés à ce cep afin de continuer à porter du fruit. Donc, nous devons être unis au cep et nous devons veiller à cette communion que nous avons avec le Christ jour après jour. Nous ne pouvons pas nous contenter d'une expérience du passé en disant « j'ai fait cette expérience il y a bien longtemps ». Oui, c'est formidable. Autrefois, je vivais ceci, je vivais cela. C'est formidable. Mais ce qui est important, ce n'est pas ce que vous avez vécu hier seulement, mais c'est surtout ce qu'il en reste aujourd'hui. Et mes frères et sœurs, nous devons comprendre que la sève continue à couler avec les années et que si les choses ne sont pas une réalité dans notre vie, c'est peut-être que nous nous sommes détachés de notre Seigneur, d'une manière ou d'une autre, éloignés. Nous ne pouvons pas être un peu éloignés. Nous devons être unis à notre Seigneur, entretenant avec lui une communion étroite, une communion réelle. Et puis, qu'est-il dit concernant la vigne dans le Deutéronome, au chapitre 22 et le verset 9, je lis cela, « Tu ne sèmeras point dans ta vigne diverses semences, de peur que tu ne jouisses ni du produit de ce que tu auras semé, ni du produit de la vigne. » Nous devons veiller à ne pas justement tomber dans le piège de semer dans cette vigne des semences qui seraient des semences étrangères à la vigne, qui sont le symbole de ces doctrines étrangères à l'enseignement de Jésus-Christ et des apôtres, et qui pourraient sembler bonnes et belles, mais qui n'ont rien à faire avec la vigne. La vigne, c'est la vigne. Et notre vie avec le Seigneur, c'est quelque chose qui ne peut pas être mélangé. Nous ne pouvons pas dénaturer, nous allons le voir dans un instant, ce que le Seigneur nous a confié, sinon ça va nous rendre stériles. Et il n'y a rien de pire que de devenir stérile quand on marche avec le Seigneur. Attention, il y a des périodes où le Seigneur, lui, nous rend stériles, comme il avait rendu stérile Anne. La Bible dit que Dieu avait rendu stérile. Dieu permet des temps de stérilité pour que, rentrant en nous-mêmes, nous comprenions quel est l'essentiel, quelles sont les priorités, afin de revenir au Seigneur de tout notre cœur et s'entendre dire « J'ai entendu ta prière et je vais l'exaucer », dit le Seigneur, car Dieu ne veut pas nous laisser dans la stérilité, il veut que nous portions du fruit pour sa gloire. Et il met tout en œuvre pour qu'il en soit ainsi. Alors, il y a des périodes où nous ne comprenons pas trop ce qui nous arrive, mais même si nous ne comprenons pas tout, nous avons un refuge. Nous savons que lui comprend. Et nous savons que si nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez, lui, il a tout préparé d'avance. Je ne sais pas comment le Seigneur va s'y prendre. Je ne sais pas ce qu'il va faire, mais je sais que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et puis, je dois, en parlant de la vigne, souligner aussi que, comme toute plante qui vit, la vigne est menacée. Il y a des prédateurs, mais il y a aussi d'autres formes de menaces. C'est le livre du Cantique des Cantiques, où la bien-aimée dit que ses frères l'ont faite gardienne des vignes, et ajoute, « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Quelquefois, on est un petit peu comme cela. On peut arriver à cette conclusion, « Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Alors, profitons de ces moments où nous avons pris ensemble la Sainte Cène, renouvelant l'engagement que nous avions pris de suivre le Seigneur pour nous recadrer, nous recentrer sur l'essentiel et réaliser qu'il y a un trésor, un héritage que nous avons reçu et nous devons garder cet héritage. La Bible nous dit que cette vigne de Naboth était à côté du palais du roi Achab. Un palais. Le palais, ça évoque la richesse, ça évoque la beauté et il ne peut pas ne pas être ici le symbole de ce monde, de l'attraction du monde, avec cette beauté artificielle qui attire tellement de monde et malheureusement tellement de chrétiens. Et nous devons être très vigilants. Il y a donc ici cette idée-là. Un roi, Akab. Akab est ici, pour moi, celui qui incarne le diable lui-même, Satan, qui est le prince de ce monde, l'ennemi de Dieu. Et il a une épouse qui est très connue. Elle s'appelle Jézabel. Jézabel représente la puissance de l'erreur. On la retrouve même dans l'Apocalypse, quand le Seigneur adresse cette lettre à l'église de Thyatire. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses Jézabel, cette prophétesse, enseigner. Il y a là quelque chose qui ne va pas, et on voit que Satan a toujours été marié à ces doctrines mensongères qu'il va utiliser. Et je crois que la première a été promulguée dès les origines, dans le jardin d'Éden, par cette insinuation « Dieu a-t-il réellement dit ?» Je ne sais pas si vous avez entendu cela, mais de plus en plus, « Dieu a-t-il réellement dit ?» J'écoutais un message sur YouTube, un petit peu, parce que bon, c'est pas trop mon truc, ça m'agace certaines choses, mais j'écoutais ce message parce que quelqu'un avait attiré mon attention sur ce qui était dit, à savoir que aujourd'hui, on peut transformer ce qui est simple en quelque chose de vraiment dénaturer. Par exemple, dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Et donc, frères et sœurs, jusqu'à présent, nous avions la concordance biblique et le dictionnaire biblique pour comprendre la Bible. Mais maintenant, nous avons tellement de moyens. Et c'est grâce à tous ces moyens que nous pouvons affirmer que ce à quoi nous avons cru comme étant la vérité peut être reconsidéré. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la connaissance. Lorsque j'ai entendu cela, ça m'a fait un choc, parce que ça veut dire que finalement, il a fallu attendre tous les moyens modernes pour comprendre la Bible et que Dieu, jusque-là, a été incapable de la révéler à ses serviteurs. Or, si je lis les Écritures, le Nouveau Testament, les lettres de l'apôtre Paul et bien d'autres, je me dis quelle compréhension, quelle profondeur, quelle saveur. Nous sommes loin d'avoir compris tout ce qu'ils avaient compris, et il faudrait peut-être un peu d'humilité, et surtout de ne pas penser que jusque-là, on n'a rien compris, mais maintenant on commence à comprendre. C'est Dieu a-t-il réellement dit ? Écoutez, finalement, j'ai tellement de connaissances aujourd'hui que je peux vous prouver que tout ce que vous avez cru jusqu'à présent, c'est faux. Mais c'est grave de dire une chose pareille. Notre foi ne repose pas sur des théories d'hommes, des interprétations humaines. Je bénis Dieu pour l'action du Saint-Esprit dans le monde entier quand les réveils ont surgi et que l'Esprit de Dieu inspirait ici et là dans d'autres pays, que la gloire de Dieu se manifestait d'une manière glorieuse. Et je crois que le Seigneur aujourd'hui peut faire aussi de grandes choses. C'est vrai que l'âme de tout être humain côtoie ces réalités. Aujourd'hui, nous sommes au contact de ce monde avec ce qu'il représente, de l'ennemi de notre âme qui cherche à nous ravir ce que nous avons reçu. Nous sommes au contact également de toutes ces fausses doctrines. Et l'apôtre Pierre dit, elles font la guerre à l'âme. Et je crois que il y a une guerre qui est engagé, mais dans cette guerre, nous ne pouvons pas combattre avec des armes humaines. Nous avons besoin des armes spirituelles. Alors, la Bible nous présente ici Achab dans son intention. Il voit cette vigne de Naboth qui est pas très loin de sa maison et il commence à convoiter cette prospérité. C'est vrai que la prospérité de cette vigne lui faisait envie parce qu'elle était en contraste avec toute cette beauté et cette prospérité artificielle du palais. Il y a quelque chose qu'il convoite, nous montrant ainsi le cœur même de l'adversaire de notre âme qui ne supporte certainement pas que nous vivions quelque chose de beau avec notre Seigneur. Mais il y a une promiscuité qui est là, dangereuse. On vit dans un monde à côté de ces réalités et nous ne pouvons pas vraiment nous en éloigner. Nous devons vivre avec et nous devons veiller jour après jour sur chacun d'entre nous. Et regardez cet Achab. Il va voir Naboth et il lui dit, cède-moi ta vigne. Je ne sais pas si vous entendez bien. Cède-moi. Cède-moi du terrain. Ne résiste pas. Cède-moi ta vigne. Le diable n'a pas changé. Et ce que le diable veut, c'est que nous lui cédions du terrain. C'est que nous baissions les bras, que nous acceptions ses propositions. C'est vrai que Achab est un type du diable, mais il faut dire aussi qu'il est là, il fait partie du peuple d'Israël. Il aurait pu être un exemple, lui, en tant que roi pour le peuple. Malheureusement, il n'a pas été un moyen de bénédiction pour Dieu, mais un moyen que le diable a utilisé contre le plan de Dieu. Cède-moi, j'en ferai un jardin potager. C'est là toute l'intention de l'adversaire de notre âme, de dénaturer cette tentation, de dénaturer ce à quoi Dieu appelle l'homme pour que nous portions des fruits que Dieu n'a pas demandé que nous portions. Finalement, pourquoi aller chercher ce que Dieu n'a pas souhaité que nous vivions? Nous avons dans la parole de Dieu et en Christ tout ce qui est nécessaire, indispensable au développement de notre vie. Dieu ne veut pas trouver en nous d'autres fruits. Qu'avons-nous besoin d'autres fruits que le fruit même que lui a décrit dans sa parole? Nous voulons être des hommes et des femmes authentiques. Je te paierai le prix qu'il faut avec de l'argent, comme si il y avait dans cette tentation matérialiste quelque chose qui pouvait prendre la place de la vie spirituelle. On ne peut pas acheter ce que le Seigneur, lui, nous a transmis. Et nous devons veiller à ne pas dénaturer ce que Dieu nous a donné. Ça m'a fait penser à l'histoire de Caïn et Abel. Et Caïn, eh bien, était quelqu'un qui a voulu offrir à Dieu des fruits produits de son travail. Ils étaient certainement très beaux, mais Dieu n'en a pas voulu. Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur ces fruits. Le Seigneur attend de nous quelque chose, mais pas forcément ce que nous pensons quelquefois ou ce que l'on cherche à nous faire croire. Ce que Dieu veut, c'est que tu aies un cœur vrai, authentique, attaché au Seigneur, aimant la parole de Dieu, aimant l'œuvre de Dieu, aimant les âmes qui se perdent, ayant un désir de vivre une communion avec le Seigneur réel. Et puis, il lui dit, tu sais, si c'est bon à tes yeux, si ça te convient, c'est pas parce que les choses sont bonnes à nos yeux qu'elles sont forcément bonnes aux yeux du Seigneur. Que Dieu nous accorde la grâce d'un jugement qui est un jugement équilibré et que nous puissions avoir du discernement pour reconnaître ce qui est bon de ce qui n'est pas bon. Et nous savons que le Seigneur est là pour nous éclairer jour après jour. On est prêt à mordre dans des coloquins sauvages, à manger n'importe quoi. La Bible nous dit que celui qui a faim trouve doux même ce qui est amer. On est en plein dans cette période-là. Ce n'est pas parce que nous avons faim que nous devons nous autoriser d'avaler n'importe quoi. Nous devons avoir du discernement afin de nous préserver dans les voies du Seigneur. Et là, il y a quelque chose de formidable, c'est la fermeté et la fidélité de Naboth. Sa réponse face au roi, c'est de lui dire non. Il disait oui à Dieu, mais il disait non à Achab, non. Son argument est clair, je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Je crois que c'est une exhortation à ne pas dilapider l'héritage spirituel que nous avons reçu de Dieu par Jésus-Christ et qui nous a été transmis par une chaîne de témoins fidèles. On pourrait dire beaucoup de choses à ce sujet-là, mais ne sommes-nous pas invités par Jude lui-même à combattre pour cette foi transmise au saints une fois pour toutes et veiller à garder ce que le Seigneur nous a donné? Eh bien, parce que Naboth a été ferme et parce que Naboth n'a pas voulu céder l'héritage qu'il avait reçu, bien, Naboth a été persécuté. Et même, la Bible nous dit qu'il a été mis à mort, et un peu plus loin, même ses fils. C'est pour la même raison que le Seigneur et les siens ont été persécutés. Et nous savons que ce combat spirituel a les mêmes enjeux aujourd'hui. Aujourd'hui, on sait que c'est exactement la même chose. Ça n'a pas changé. Mais la Bible nous dit, dans l'Apocalypse entre autres, soyons fidèles jusqu'à la mort, et puis je vous donnerai la couronne, dit le Seigneur. Cette couronne nous attend parce que le Seigneur est celui qui veut nous accorder cette bénédiction parce que nous serons fidèles au Seigneur. Mais je reviens un peu sur Achab. Je me suis dit quand même, quel personnage étrange. Quelques versets avant, il est contrarié dans une autre affaire, et au verset 42 du chapitre 20, il est dit, « Le roi d'Israël s'en alla chez lui, triste et irrité, et il arriva à Samarie. » Là, il va voir Naboth, il lui demande la vigne, il dit non. Et au verset 4, Achab rentra dans sa maison, triste et irrité, à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel, « Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. » Et il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Et à ce moment-là, sa femme Jézabel vient auprès de lui. Elle lui pose la question, mais pourquoi tu es triste et ne manges-tu point? Alors lui raconte ce qui s'est passé. On a ici un roi boudeur. Ça m'a quand même surpris parce que quand on a des responsabilités de roi, je pense qu'on doit avoir une attitude un peu plus digne que celle-là. Et surtout que ce n'est pas quelqu'un qui manquait du nécessaire. Il était riche, il avait des biens, il ne lui manquait rien. Mais il ne supportait pas qu'on lui résiste. Il était comme un enfant, un peu comme si les choses ne s'étaient pas vraiment développées en lui, s'il n'avait pas mûri avec ses caprices. Il est boudeur, il rentre chez lui, Une traduction dit même qu'il se couche sans, en refusant de manger et se tourne contre le mur. Il est malheureux, il n'est pas bien, tout simplement parce qu'il n'a pas obtenu ce qu'il avait désiré obtenir. Et sa femme, quand elle le voit, elle se dit, mais quand même, il y a un problème, c'est qui a l'autorité? C'est qui a l'autorité? C'est pas toi. Si c'est toi qui as l'autorité, alors mange, réjouis-toi, et si tu n'en as pas la force, n'inquiète pas, moi je vais m'occuper de te donner la vigne de Naboth de Jizréel. Et cette femme-là a élaboré un plan sinistre, diabolique. Elle va utiliser la loi pour pouvoir arriver à ses fins. Elle va utiliser le sceau royal pour organiser dans la ville de Naboth un jeûne. Et on voit cette femme qui se cache derrière le vêtement de la religion. Peu comme pour démontrer que ce qu'elle fait est spirituel. Elle organise un jeûne. Le roi organise un jeûne. Mais ce n'est pas tout d'organiser des jeûnes. Il faut savoir quels sont les mobiles et les intentions de notre cœur. Et la Bible nous explique ce qu'est le véritable jeûne. On peut jeûner pendant des années sans que cela ne soit agréable au Seigneur. Et puis, elle va soudoyer des témoins, des faux témoins, et elle va tout manigancer pour que ces témoins, à un moment donné, condamnent Naboth, pour que celui-ci soit entraîné, traîné même, hors de la ville, et lapidé, mis à mort. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Nous aurions aimé que les choses soient différentes, et nous voyons en cela une grande injustice. Je pense qu'il faut que nous dépassions certaines idées avec lesquelles il suffit de s'écrier « Loué soit l'Éternel » et d'une manière, je ne sais, presque magique, tout devient normal. Je crois que l'injustice et toutes les choses peut-être désagréables qui arrivent, ne sont pas forcément en dehors du plan de Dieu, car s'il y a eu mort ici de Naboth, bien sûr nous pourrions parler de notre propre mort. La mort à nous-mêmes est une nécessité, en sachant que quelqu'un est mort déjà pour nous à la croix du calvaire, et notre Seigneur a tout accompli sur cette croix. C'est difficile de vivre une telle expérience, mais elle est salutaire, car il est nécessaire que celui qui soit élevé et glorifié soit le Seigneur. Et ce que nous comprenons dans ce texte, c'est que malgré les circonstances, Dieu est au contrôle et que Dieu approuve les voies de Naboth. Il n'approuve pas les voies de Jézabel et d'Akab. Il prend à témoin son serviteur pour nous donner un exemple et pour nous dire « Ne vous découragez pas, quelles que soient les circonstances, l'important, ce n'est pas l'approbation des hommes, l'important c'est l'approbation de Dieu. » Lorsque le Seigneur nous dit que certains avant de mourir ont reçu le témoignage qu'ils étaient agréables à Dieu, je dis c'est extraordinaire de pouvoir partir en ayant reçu ce témoignage que nous sommes agréables à Dieu. Avez-vous dans votre cœur la possibilité de dire ce matin, j'ai ce témoignage, que je suis agréable au Seigneur? Si c'est le cas, eh bien béni soit le Seigneur. Mais nous sommes là pour avancer dans cette voie et permettre à Dieu de nous transformer pour que tout ce que nous faisions, tout ce que nous mettons en place, toute notre vie soit vraiment pour la gloire de notre Seigneur, qu'il puisse s'en réjouir. Bien sûr, ne prenons pas la grosse tête, point de penser que nous pouvons, par je ne sais quoi, contribuer à embellir le Seigneur. Nous le pouvons, mais par l'acceptation de sa mort et par le fait que lui vive en nous. Je suis mort, disait l'apôtre Paul, mais si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, nous avons tous des progrès à faire pour que le Seigneur soit glorifié, élevé. Ce matin, je voudrais vraiment vous encourager à rester attaché à la parole du Seigneur, quelles que soient les circonstances, quelle que soit l'opposition. J'ai vu arriver des personnes qui étaient complètement démoralisées, abattues, parce que, ayant traversé des épreuves, on leur avait dit que c'était certainement parce qu'ils avaient abandonné le Seigneur ou parce qu'ils avaient fait quelque chose et que la punition de Dieu tombait sur eux. Que c'est triste d'entendre une telle chose quand on est obligé de prendre ces personnes et de les aider à relever la tête, à reprendre courage, à reprendre confiance et à réaliser que ce n'est pas forcément le cas. Quand certains m'ont dit que quand on est dans l'épreuve, c'est qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, j'ai souvent répondu, l'apôtre Paul n'a jamais été dans la volonté de Dieu. Jésus n'a jamais été dans la volonté de Dieu. Eh oui, parce que si on se fie à ce qu'ils ont vécu, étant de prophètes de la parole de Dieu, on pourrait dire, ils n'ont jamais été dans la volonté de Dieu. Lisez l'histoire de l'apôtre Paul et vous verrez tout ce qu'il a vécu comme opposition, et de la part des uns comme de la part des autres. Mais n'était-il pas dans la volonté de Dieu ? Il l'était dans la volonté de Dieu. Et je me garderai bien aujourd'hui de juger l'apôtre Paul ou de dire que le Seigneur n'a pas choisi le bon chemin par amour pour nous. Il a appris l'obéissance dans la souffrance, il a accepté l'épreuve, l'opposition, il a accepté d'être rejeté, trahi, peu importe. L'important pour lui, c'était de faire ce qui est agréable au Père Céleste. Aujourd'hui, nous avons dans notre cœur cette espérance que celui qui a commencé en nous une bonne œuvre la rendra parfaite. Et l'important, ce n'est pas le moment présent seulement, il est important, parce qu'il va déterminer les instants qui vont suivre par le positionnement qui est le nôtre. Mais l'important, c'est de pouvoir se confier dans le Seigneur et d'avoir cette espérance, cette foi qui reste inébranlable, que ce que le Seigneur dit, il le fait, et que ce qu'il promet, il l'accomplit toujours. Alléluia. Ça s'est passé comme cela, mais Dieu a tout vu de son ciel, et il va parler à son serviteur, et il va l'envoyer vers Naboth pour lui parler. N'es-tu pas un assassin? N'es-tu pas un voleur? Alors, c'est des paroles qui sont peut-être dures, mais vous savez que la Bible dit qu'on peut tuer avec la langue, hein? Et certains ont des langues bien chargées, hein? Pour tuer, ils savent faire. Mais que Dieu nous garde d'avoir, nous, une langue propre et une disposition de cœur qui plaît à Dieu, où notre cœur est ouvert. Nous ne rejetons pas les âmes, nous rejetons le mensonge, l'hypocrisie, les fausses doctrines. Nous rejetons l'enseignement qui n'émane pas de notre Seigneur et qui voudrait nous entraîner à dénaturer l'œuvre de notre Seigneur. Nous rejetons toutes ces choses, mais nous sommes attachés à notre bien-aimé Sauveur. Et le Seigneur parlera à Achab en lui disant, parce que tu as agi comme cela, alors le jugement t'atteindra. Je ne vais pas rentrer ici dans les détails, mais nous savons que ça a été très compliqué pour Akab et pour son fils, pas à cause de Akab, mais à cause de son fils lui-même qui était responsable de sa propre vie. Et nous devons bien comprendre que chacun rendra des comptes à Dieu pour lui-même. Mais en conclusion, j'ai simplement à cœur de vous dire ce matin, mes frères, mes sœurs, tenez bon, tenons bon, prions les uns pour les autres, encourageons-nous, stimulons notre foi, que nous puissions nous encourager à l'amour de Dieu, à la charité, parce que nous avons besoin de la communion fraternelle. Je le disais en famille, nous ne pouvons pas ne pas avoir cette communion. Elle est indispensable où nous nous encourageons les uns les autres. Et je laisse sur votre cœur des textes de l'Écriture que j'ai notés sur mon papier dans Hébreux au chapitre 3, le verset 6. Sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Est-ce que nous pouvons dire ce matin, sa maison, c'est nous. Et nous avons l'intention de retenir jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Il est dit au chapitre 4, verset 14, « Demeurons fermes dans la foi que nous professons. » Ce n'est pas tout de professer, il faut vivre. Quelqu'un a dit un jour, « Je préfère voir un sermon que de l'entendre. » Oh, il avait vraiment raison, parce qu'on peut entendre des choses et voir le contraire. Et combien nous sommes désabusés quelquefois de réaliser que entre ce que l'on a entendu et ce que l'on a vu, il y a un fossé. Et comment ce message peut-il avoir une portée sur nos cœurs? Tes actes, disait quelqu'un, parlent si fort que je n'entends pas ce que tu me dis. C'est vrai que quelquefois c'est comme cela. On a comme les oreilles fermées, on ne peut pas entendre parce que il y a un contraste énorme. Nous professons quelque chose que nous devons vivre. Et avant même de l'imposer aux autres, de pouvoir l'expérimenter nous-mêmes. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et puis, dans l'Apocalypse 2, 25, « Seulement ce que vous avez, retenez-le, jusqu'à ce que je vienne. » Ah. On dit « il revient bientôt ». Eh bien justement, prenons courage, il va bientôt revenir. Et puis, 3.11 dans Apocalypse, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Je bénis le Seigneur pour l'héritage qu'il nous a donné. Nous sommes le fruit de son œuvre. Alors, le fruit, il doit satisfaire qui? Le divin vigneron. Alors, aujourd'hui, nous projetons dans cette orientation avec un seul désir. Seigneur, je veux te plaire, quoi qu'il en coûte. Je veux te plaire et faire ta volonté. C'est un engagement. C'est pas facile, mais cet engagement, nous le voulons avec beaucoup d'humilité, de simplicité, mais d'amour pour notre Seigneur. Je ne veux pas marcher dans les voies de Dieu et obéir par contrainte, mais par amour. C'est par amour qu'il est venu pour nous. C'est par amour que nous voulons aussi marcher dans ces voies maintenant. Alors prions le Seigneur ensemble. Gloire à ton nom, Seigneur.